Nicolas Boileau, l'art poétique, chant 3. Il n'est point de serpent ni de monstre odieux qui par l'art imité ne puisse plaire aux yeux. D'un pinceau délicat à l'artifice agréable, du plus affreux objet fait un objet aimable. Ainsi, pour nous charmer, la tragédie en pleurs, d'Édipe tout sanglant fit parler les douleurs, d'Oreste parricide exprima les alarmes, et pour nous divertir nous arracha des larmes. Vous donc, qui d'un beau feu pour le théâtre épris, venez en vers pompeux et disputez le prix, voulez-vous sur la scène étaler des ouvrages, où tout Paris en foule apporte ses suffrages, et qui toujours plus beau, plus ils sont regardés, soit au bout de 20 ans encore redemandé? Que dans tous vos discours, la passion émue aille chercher le cœur, l'échauffe et le remue. Si d'un beau mouvement l'agréable fureur souvent ne nous remplit d'une douce terreur, ou n'excite dans notre âme une pitié charmante, en vain vous étalez une scène savante. Vos froids raisonnements ne feront qu'attiédir un spectateur toujours paresseux d'applaudir, et qui des vains efforts de votre rhétorique justement fatigué s'endort ou vous critique. Le secret était d'abord de plaire et de toucher, inventer des ressorts qui puissent m'attacher, que dès les premiers vers l'action préparée sans peine du sujet aplanisse l'entrée. Je me ris d'un acteur qui, lent à s'exprimer, de ce qu'il veut d'abord ne sait pas m'informer, et qui, débrouillant mal une pénible intrigue, d'un divertissement me fait une fatigue. Je me refuse encore qu'il déclina son nom et dit « Je suis Oreste ou bien Agamemnon », que d'aller par un tas de confuses merveilles, sans rien dire à l'esprit, étourdir les oreilles. Le sujet n'est jamais assez tôt expliqué, que le lieu de la scène y soit fixe et marqué. Un rimeur sans péril de là les Pyrénées sur la scène en un jour enferme des années. Et là, souvent, le héros d'un spectacle grossier, enfant au premier acte et barbon au dernier. Mais nous, que la raison à ses règles engage, nous voulons qu'avec art l'action se ménage, qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Jamais aux spectateurs n'offrait rien d'incroyable. Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Une merveille absurde est pour moi sans appât. L'esprit n'est point ému de ce qu'il ne croit pas. Ce qu'on ne doit point voir, qu'un récit nous l'expose. Les yeux, en le voyant, saisiraient mieux la chose, mais il est des objets que l'art judicieux doit offrir à l'oreille et reculer des yeux. Que le trouble, toujours croissant de scène en scène, à son comble arrivé se débrouille sans peine. L'esprit ne se sent point plus vivement frappé que lorsqu'en un sujet d'intrigue enveloppé, d'un secret tout à coup, la vérité connue change tout, donne à tout une face imprévue. La tragédie, informe et grossière en naissant, n'était qu'un simple cœur où chacun en dansant, et du dieu des raisins entonnant les louanges, s'efforçait d'attirer de fertiles vendanges. Là, le vin et la joie, éveillant les esprits, du plus habile chantre un bouc était le prix. Thespis fut le premier qui, barbouillé de lit, promena dans les bourgs cette heureuse folie, et d'acteurs mal ornés, changeant un tombereau, amusa les passants d'un spectacle nouveau. Eschyle, dans le cœur, jeta les personnages. D'un masque plus honnête habilla les visages. Sur les airs d'un théâtre, en public exaucé, fit paraître l'acteur d'un brodequin chaussé. Sophocle, enfin, donnant l'essor à son génie, accrut encore la pompe, augmenta l'harmonie, intéressa le cœur dans toute l'action. De vers trop raboteux polit l'expression, lui donna chez les Grecs cette hauteur divine où jamais n'atteignit la faiblesse latine. Chez nos dévots aïeux, le théâtre aboré, fut longtemps dans la France un plaisir ignoré des pèlerins, dit-on. Une troupe grossière, en public à Paris, monta la première. Et saintement zélé en sa simplicité, joua les saints, la Vierge et Dieu par piété. Le savoir, à la fin dissipant l'ignorance, fit voir de ce projet la dévote imprudence. On chassa ces docteurs prêchant sans mission, et environnait Hector, Andromaque, Ilion. Seulement, les acteurs, laissant le masque antique, le violon un lieu de cœur et de musique. Bientôt, l'amour, fertile entendre sentiment, s'empara du théâtre ainsi que des romans. De cette passion, la sensible peinture est pour aller au cœur la droite la plus sûre. Peignez donc, j'y consens, les héros amoureux, mais n'en formez pas des bergers doucereux. Qu'Achille autrement que Tircis et Philène, n'allez pas d'un Cyrus nous faire un Artamène, et que l'amour, souvent de remords combattu, paraisse une faiblesse et non une vertu. Des héros de romans, fuyez les petitesses. Toutefois, au grand cœur, donnez quelques faiblesses. Achille déplairait, moins brouillant, moins fort. J'aime à lui voir verser des pleurs pour un affront. À ses petits défauts marqués dans sa peinture, l'esprit avec plaisir reconnaît la nature. Qu'il soit sur ce modèle en vos écrins tracés, qu'Agamemnon soit fier, stupide, intéressé, que pour ses dieux aînés ait un respect austère, conservez à chacun son propre caractère. Des siècles, des pays, étudiez les mœurs, les climats font souvent les diverses humeurs. Gardez donc de donner, ainsi que dans Clélie, l'air ni l'esprit français à l'antique Italie. Et sous des noms romains, faisant notre portrait, peindre Caton galant et Brutus Dameret. Dans un roman frivole, les aimants tous s'excusent. C'est assez qu'en courant la fiction amuse. Trop de rigueur alors serait hors de saison. Mais la scène demande une exacte raison. L'étroite bienséance y veut être gardée. D'un nouveau personnage inventez-vous l'idée. Quand tout avec soi-même il se montre d'accord et qu'il soit jusqu'au bout tel qu'on l'a vu d'abord. Souvent, sans y penser, un écrivain qui s'aime forme tous ses héros semblables à soi-même. Tout à l'humeur gasconne en un auteur gascon. Calprenet et Juba parlent du même ton. La nature est en nous plus diverse et plus sage. Chaque passion parle un différent langage. La colère est superbe et veut des mots altiers. L'abattement s'explique en des termes moins fiers. Que devant Troie en flammes et cubes désolés ne viennent pas pousser une plainte en poulet, ni sans raison d'écrire en quelque affreux pays « Par cette bouche le Xin reçoit le Tanaïs ». Tous ces pompeux amas d'expressions frivoles sont d'un déclamateur amoureux des paroles. Il faut, dans la douleur, que vous vous abaissiez. Pour me tirer des pleurs, il faut que vous pleuriez. Ces grands mots dont alors l'acteur emplit sa bouche ne partent point d'un cœur que sa misère touche. Le théâtre, fertile en censeurs pointilleux, chez nous pour se produire est un champ périlleux. Un auteur n'y fait pas de facile conquête. Il trouve à le siffler des bouches toujours prêtes. Chacun le peut traiter de faille, d'ignorant. C'est un droit qu'à la porte on achète en entrant. Il faut qu'en cent façons, pour plaire, il se replie, que tantôt il s'élève et tantôt s'humilie, qu'en noble sentiment il soit partout fécond, qu'il soit aisé, solide, agréable, profond, que de traits surprenants sans cesse il nous réveille, qu'il court dans ses vers de merveille en merveille, et que tout ce qu'il dit, facile à retenir, de son ouvrage en nous c'est un long souvenir. Ainsi la tragédie agit, marche et s'explique. D'un air plus grand encore, la poésie épique, dans le vaste récit d'une longue action, se soutient par la fable et vit de fiction. Là, pour nous enchanter, tout est mis en usage. Tout prend un corps, une âme, un esprit, un visage. Chaque vertu devient une divinité. Minerve est la prudence et Vénus la beauté. Ce n'est plus la vapeur qui produit le tonnerre, c'est Jupiter armé pour effrayer la terre. Un orage terrible aux yeux des matelots, c'est Neptune en courroux qui gourmande les flots. Écho n'est plus un son qui dans l'air ralentisse, c'est une nymphe en pleurs qui se plaint de Narcisse. Ainsi, dans cet amas de nobles fictions, le poète s'égaye en mille inventions. Orne, élève, embellit, agrandit toutes choses, et trouve sous sa main des fleurs toujours écloses. Qu'aînés ces vaisseaux, par le vent écartés, soient aux bords africains d'un orage emporté, ce n'est qu'une aventure ordinaire et commune. Qu'un coup surprenant des traits de la fortune, mais que Junon, constant à son aversion, poursuivit sur les flots les restes d'Ilion, qu'Éole en sa faveur les chassant d'Italie ouvre au vent mutiné les prisons d'Éolie, que Neptune en courroux, se levant sur la mer, d'un mot calme les flots, mette la paix dans l'air, délivre les vaisseaux, déchire les arrache, c'est là ce qui surprend, frappe, saisit, attache. C'est là ce qui surprend, frappe, saisit, attache. Sans tous ces ornements, le vers tombe en langueur. La poésie est morte ou rampe sans vigueur. Le poète n'est plus qu'un orateur timide, qu'un froid historien d'une fable insipide. C'est donc bien vainement que nos auteurs déçus, bannissant de leurs vers ces ornements reçus, pensent faire agir Dieu, ses saints et ses prophètes, comme ces dieux éclos du cerveau des poètes. Mettent à chacun part le lecteur en enfer, n'offrent rien qu'Astaroth, Belzébuth, Lucifer. De la foi d'un chrétien, les mystères terribles, d'ornements aigués ne sont point susceptibles. L'évangile à l'esprit n'offre de tous côtés que pénitence à faire et tourments mérités. Et de vos fictions, le mélange coupable, même à ses vérités, donne l'air de la fable. Et quel objet, enfin, à présenter aux yeux, que le diable toujours hurlant contre les cieux, qui de votre héros veut rabaisser la gloire, et souvent avec Dieu balance la victoire. Le tasse, dira-t-on, l'a fait avec succès. Bon, je veux point ici lui faire son procès. Mais quoique notre siècle à sa gloire publie, il n'eut point de son livre illustré l'Italie, si son sage héros, toujours dans nos raisons, n'eût fait que mettre enfin Satan à la raison, et si Renaud, Argan, Tancrède et sa maîtresse n'eussent de son sujet égayé la tristesse. Ce n'est que pas, j'approuve, en un sujet chrétien, un auteur follement idolâtre et païen, mais dans une profane et riante peinture, de n'oser de la fable employer la figure, de chasser les tritons de l'empire des eaux, d'ôter à pan sa flûte au parc leurs ciseaux, d'empêcher que Caron dans sa fatale barque, ainsi que le berger ne passe le monarque, c'est d'un scrupule vain s'alarmer sottement, et vouloir au lecteur plaire sans agrément. Bientôt ils défendront de peindre la prudence, de donner à Thémiste ni bandeau ni balance, de figurer aux yeux la guerre au front des reins, ou le temps qui s'enfuit une horloge à la main. Et partout des discours comme une idolâtrie dans leurs faux ailes iront chasser l'allégorie. Laissons-les s'applaudir de leurs pieuses erreurs. Mais pour nous, bannissons une vaine terreur, et fabuleux chrétiens, n'allons point dans nos songes du dieu de vérité faire un dieu de mensonge. La fable offre à l'esprit mille agréments divers. Là, tous les noms heureux semblent nés pour les vers. Ulysse, Agamemnon, Oreste, Idoménée, Hélène, Ménélas, Paris, Hector, Aîné. Oh, le plaisant projet d'un poète ignorant, qui de tant de héros va choisir Childebrand? D'un seul nom, quelquefois, le son dur ou bizarre rend un poème entier, ou burlesque, ou barbare. Voulez-vous longtemps plaire et jamais ne lasser? Faites choix d'un héros propre à m'intéresser, en valeur éclatant, en vertu magnifique, quand lui, jusqu'au défaut, tout se montre héroïque, que ses faits surprenants soient dignes d'être ouïs, qu'il soit tel que César, Alexandre ou Louis, non tel que Polynice et son perfide frère. On s'ennuie aux exploits d'un conquérant vulgaire. N'offrez point d'un sujet d'incident trop chargé. Le seul courroux d'Achille, avec armes ménagées, remplit abondamment une Iliade entière. Souvent trop d'abondance appauvrit la matière. Soyez vif et pressé dans vos narrations, soyez riche et pompeux dans vos descriptions. C'est là qu'il faut des vers étaler l'élégance, n'y présentez jamais de basses circonstances. N'imitez pas ce fou qui, décrivant les mers et peignant au milieu de leurs flots entr'ouverts l'hébreu sauvé du joug de ses injustes maîtres, mais pour le voir passer les poissons aux fenêtres. Pas le petit enfant qui va, saute, revient, et joyeux à sa mère offre un caillou qu'il tient. Sur de vains, trop vains objets, s'est arrêtée la vue. Donnez à votre ouvrage une juste étendue. Que le début soit simple et n'ait rien d'affecté. N'allez pas dès l'abord, sur Pégase monté, crier à vos lecteurs d'une voix de tonnerre: je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre. Et que produira l'auteur après tous ces grands cris? La montagne en travail enfante une souris. Oh, que j'aime bien mieux cet auteur plein d'adresse, qui, sans faire d'abord de si hautes promesses, me dit d'un ton aisé, doux, simple, harmonieux: je chante les combats et cet homme pieux qui des bords phrygiens conduisit dans l'Ausonie, le premier aborda les choses dans le Venise. S'amuse en arrivant, ne met pas tout en feu, et pour donner beaucoup ne nous promet que peu. Bientôt, vous la verrez, prodiguant des miracles, du destin des Latins prononcer les oracles, de Styx et d'Achéron peindre les noirs torrents, et déjà des Césars dans l'Élysée errant. De figures sans nombre égayez votre ouvrage, que tout y fasse aux yeux une riante image. On peut être à la fois et pompeux et plaisant, et je hais un sublime ennuyeux et pesant. J'aime mieux Arioste et ses fables comiques que des auteurs toujours froids et mélancoliques qui, dans leur sombre humeur, se croiraient faire affront si les grâces jamais leur déridaient le front. On dirait que pour plaire, instruit par la nature, Homère est à Vénus dérobé sa ceinture. Son livre est d'agrément un fertile trésor. Tout ce qu'il a touché se convertit en or. Tout reçoit dans ses mains une nouvelle grâce. Partout il divertit, et jamais il ne lasse. Une heureuse chaleur anime ses discours. Il ne s'égare point de trop longs détours. Sans garder dans ses vers un ordre méthodique, son sujet de soi-même et s'arrange et s'explique. Tout, sans faire d'apprêt, s'y prépare aisément. Chaque vers, chaque mot court à l'événement. Aimez donc ses écrits, mais d'un amour sincère. C'est d'avoir profité que de savoir s'y plaire. Un poème excellent où tout marche et se suit n'est pas de ses travaux qu'un caprice produit. Il veut du temps, des soins, et ce pénible ouvrage jamais d'un écolier ne fut l'apprentissage. Mais souvent parmi nous un poète sans art, qu'un beau feu quelquefois échauffa par hasard, enflant d'un vain orgueil son esprit chimérique, fièrement prend en main la trompette héroïque. S'amuse déréglé en ces vers vagabonds, ne s'élève jamais que par sauts et par bonds, et son feu, dépourvu de sens et de lecture, s'éteint à chaque pas, faute de nourriture. Mais en vain le public, prompt à le mépriser, de son mérite fauve le désabusé. Lui-même, applaudissant à son maigre génie, se donne par ses mains l'encens qu'on lui dénie. Virgile, auprès de lui, on n'a point d'invention. Homère, on n'entend pas la noble fiction. Si contre cet arrêt le siècle se rebelle, à la postérité d'abord il en appelle. Mais attendant qu'ici le bon sens de retour ramène triomphant ses ouvrages au jour, leur tas au magasin, cachés à la lumière, combattent tristement les vers et la poussière. Laissons-les donc entre eux s'escrimer en repos, et sans nous égarer, suivons notre propos. Des succès fortunés du spectacle tragique, dans Athènes naquit la comédie antique. Là, le grec, né moqueur parmi le jeu plaisant, distilla le venin de ses traits médisants. Aux accès insolents d'une bouffonne joie, la sagesse, l'esprit, l'honneur furent en proie. On vit par le public un poète avoué s'enrichir aux dépens du mérite joué, et Socrate, par lui, dans un cœur de nuée, d'un vil amas de peuple attirer les huées. Enfin, de la licence, on arrêta le cours. Le magistrat des lois emprunta le secours, et rendant par édit les poètes plus sages, défendit de marquer les noms et les visages. Le théâtre perdit son antique fureur. La comédie apprit à rire sans aigreur. Sans fiel et sans venin, sut instruire et reprendre, et plut innocemment dans les vers de Ménandre. Chacun, peint avec art dans ce nouveau miroir, s'y vit avec plaisir ou crut ne s'y point voir. L'avare des premiers rit du tableau fidèle d'un avare strassé sur son propre modèle, et mille fois un fa finement exprimé méconnut le portrait sur lui-même formé. Que la nature donc soit votre étude unique, auteur qui prétendait aux honneurs du comique. Quiconque voit bien l'homme est d'un esprit profond, de tant de cœurs cachés à pénétrer le fond, qui sait bien ce que c'est qu'un prodigue, un avare, un honnête homme, un fat, un jaloux, un bizarre. Sur une scène heureuse, il peut les étaler et les faire à nos yeux vivre, agir et parler. Présentez-en partout les images naïves, que chacun y soit peint des couleurs les plus vives. La nature féconde en bizarres portraits, dans chaque âme est marquée à différents degrés. Un geste la découvre, un rien la fait paraître, mais tout esprit n'a pas des yeux pour la connaître. Le temps qui change tout change aussi nos humeurs. Chaque âge a ses plaisirs, son esprit et ses mœurs. Un jeune homme, toujours bouillant dans ses caprices, est prompt à recevoir l'impression des vices, est vain dans ses discours, volage dans ses désirs, rétif à la censure, et fou dans les plaisirs. L'âge viril, plus mûr, inspire un air plus sage, se pousse auprès des grands, s'intrigue, se ménage, contre les coups du sort songe à se maintenir, et loin dans le présent regarde l'avenir. La vieillesse, chagrine incessamment amasse, garde, non pas pour soi, les trésors qu'elle entasse, marchant tous ses desseins d'un pas lent et glacé, toujours plein le présent et vante le passé, inhabile au plaisir dont la jeunesse abuse, blâme en eux les douceurs que l'âge lui refuse. Ne faites point parler vos acteurs au hasard, un vieillard, jeune homme, un jeune homme en vieillard. Étudiez la cour et connaissez la ville. L'une et l'autre est toujours un modèle fertile. C'est par là que Molière, illustrant ses écrits, peut-être de son art eût remporté le prix, si, moins ami du peuple, en ses doctes peintures, il n'eût point fait souvent grimacer ses figures, quitte pour le bouffon l'agréable fin, et sans honte à Terence, à lier Tabarin. Dans ce sac ridicule où Scapin s'enveloppe, je ne reconnais plus l'auteur du misanthrope. Le comique ennemi des soupirs et des pleurs n'admet point dans ses vers de tragiques douleurs. Mais son emploi n'est pas d'aller dans une place de mots sales et bas charmer la populace. Il faut que ces acteurs badinent noblement, que son nœud bien formé se dénoue aisément, que l'action marchant où la raison la guide ne se perde jamais dans une scène vide, que son style humble et doux se révèle à propos, que ses discours, partout fertiles en bons mots, soient pleins de passions finement maniées, et les scènes toujours l'une à l'autre liées, aux dépens du bon sens, gardées de plaisanter. Jamais de la nature il ne faut s'écarter. Contempler de quel air un poète, père d'enterrance, vient d'un fils amoureux gourmander l'imprudence. De quel air cet amant écoute ses leçons et court chez sa maîtresse oublier ses chansons. Ce n'est pas un portrait, une image semblable. C'est un amant, un fils, un père véritable. J'aime sur le théâtre un agréable auteur qui, sans se diffamer aux yeux du spectateur, plaît par la raison seule et jamais ne la choque. Mais pour un faux plaisant à grossière équivoque, qui pour me divertir n'a que la saleté, qu'il s'en aille s'il veut sur deux tréteaux montés, abusant le pont neuf de ses sornettes fades, aux laquais assemblés jouer ses mascarades.